mesdames, bien bonsoir. Voici Couleur Tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur Tropicale.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se met ensemble.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.
Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu
sais. Je vous aime.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Mamadi. Bonne arrivée la famille! Nous sommes ici au Cénaza, c'est un lieu de culture, c'est un lieu où le spectacle vivant s'exprime. Et c'est ici que nous allons enregistrer une émission spéciale, et cela dans le cadre du concours Art Oratoire Intercollège. Vont se présenter devant vous, chers auditeurs et cher public du Cénaza, des talents. Jeunes filles, jeunes garçons, éloquents, et ils vont s'affronter. Qui fera gagner son lycée? Nous le saurons à l'issue de cette émission. Il y a trois membres du jury qui donc feront leur métier, assumeront leur mission et jugeront. Et puis, on va vous demander à vous qui êtes dans la salle, eh bien, de donner votre avis sur les prestations des uns et des autres. Et puis avec nous, aujourd'hui, il y aura un slammer. Vous savez que Couleur Tropicale, c'est la génération consciente. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Génération consciente.
Je vais maintenant appeler les cinq candidats. Moussa Sidibé. Mademoiselle Ouédraogo Vénida. Jeanne Salambert. Rasmata Ouédraogo. Et j'appelle Kenani Bado. Bon, je n'ai pas dit de quel lycée vous étiez. Présentation.
Vous qui êtes là, je vous remercie d'être venu. Je me nomme Ouédraogo Rasmata. Je viens du lycée Franklin Roosevelt. Je fais la troisième.
Bravo. Merci Rasmata. Juste préciser que Rasmata a 17 ans.
Bonjour, je m'appelle Jeanne Salambéré. Je suis en seconde 1 au lycée français Saint-Exupéry. Et j'ai 15 ans.
Alors ça c'était, comme elle n'a pas eu l'occasion de le dire avant, ça c'était, je ne m'appelle pas Salambert, mais Salambéré, monsieur Siard. Quand même, désolé. Merci Jeanne.
Ok, moi je m'appelle Sidibé Moussa, représentant du lycée Thomas Sankara.
Merci Moussa.
Bonsoir, merci pour le déplacement. Moi je me nomme Ouédraogo Roxane, élève en classe de première au lycée technique Charles Lavigerie.
Alors, j'ai l'impression, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est jour férié au Burkina. Mais ce n'est pas jour férié au lycée Charles Lavigerie, apparemment, ou en tout cas, il y a une solidarité incroyable, c'est-à-dire lorsque l'un des nôtres est quelque part, nous devons d'être présents et de le soutenir.
C'est ça exactement.
C'est ça, hein?
Oui.
Ouais, c'est un bel esprit, c'est bien.
Je me nomme Bado Kenani, du lycée technique Amilcar Cabral, en classe de terminale.
Tenez-vous là tous les cinq. Et je vous demande de les applaudir très, très, très fort. Rasmata Ouédraogo, classe de 3e, âgée de 17 ans. Elle représente le lycée Franklin Roosevelt et le thème qu'elle a choisi, les grèves des élèves et étudiants sont-elles un moyen légitime de revendication ? Nous l'écoutons.
Bon, pour moi, je peux dire que la grève des élèves et des étudiants, c'est un moyen quoi ? C'est un moyen de revendiquer nos droits, bien sûr. On peut dire droits dans notre pays actuellement. Quand tu ne te lèves pas pour dire que tu veux que cela change, tu veux que cela disparaisse ou bien tu veux qu'on change cela parce que ça énerve les gens deux fois. Tu vois, les gens ne se lèvent pas pour dire ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous allez continuer à le faire, bien sûr. Mais si tu te lèves, tu insistes là-dessus, tu dis vraiment ce que tu as fait là, vraiment ça nous a touchés, ça nous a marqués. Donc tu dois arrêter, tu dois changer ta manière de faire. Tu vas le changer, bien sûr. Même si tu ne vas pas le changer rapidement, tu vas le changer un jour. Parce que ce que tu as fait là, en âme et conscience, tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bien. Donc je crois que pour eux, pour nous, les élèves et étudiants, on a essayé de faire la grève pour revendiquer ce qui nous appartient, bien sûr. Et la grève des élèves et des étudiants a été, on nous a offert ça comme un cadeau. C'est vrai que deux fois, ça perturbe sur nos études. Donc, on nous a donné ça comme un cadeau. On va gréver. On va dire, ce que vous avez fait ne nous plaît pas. On veut que ça cesse. Maintenant, les grèves, là même, je ne comprends pas. Dans nos établissements, on dit de te lever, gréver pour revendiquer ce que tu veux. Tu te lèves, tu cherches un bâton au loin là-bas, tu arrives dans l'établissement, tu dis, où sont les professeurs ? Ils sont où ? Tu rentres, tu essayes de vouloir chicoter les professeurs. Ça veut dire quoi, ça ? On a dit de gréver. On va gréver. Depuis, là, ils n'ont pas essayé de voir comment ils consortent. Ils n'ont rien fait. J'espère qu'un jour, ils vont le faire. On va sortir, marcher, tourner dans les écoles et consorts. Dire, on a besoin que justice ou soit faite pour notre ami. C'est vrai, on n'est pas né trouver ça, mais comme ça a été fait et ça a été permis dans notre pays, donc on va le faire. Oui.
Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir, Asmata. Alors, trois personnes vont pouvoir maintenant donner leur avis.
Je pense qu'elle a peut-être raté son exposé à cause du stress. Il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Donc, il faut l'applaudir une fois de plus.
OK.
Précisément sur Samata, on peut tout de suite savoir que c'est une fille qui n'a pas l'habitude de s'exprimer en public.
D'accord.
Donc, du coup, le problème de stress se pose.
D'accord. Merci beaucoup.
Bon, je crois qu'elle a, comme elle n'est pas habituée, et puis elle a dit qu'on l'a forcée maintenant, elle a eu le courage même. Donc
on l'applaudit.
Oui, oui.
Voilà. Merci beaucoup. Deuxième candidat, qui est une candidate, Jeanne, qui est la plus jeune aujourd'hui, puisque Jeanne, tu n'as que 15 ans, tu es en seconde.
Oui.
Et le thème que tu as choisi, la justice burkinabé, joue-t-elle son rôle ?
C'est exact. Donc.
Et nous t'écoutons.
La justice burkinabé joue-t-elle son rôle ? À cette question, je réponds non. Pourquoi ? Premièrement, le pouvoir judiciaire est sous la coupe du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que ceux qui contrôlaient le pays contrôlaient entièrement la justice. C'est-à-dire que même s'ils volaient l'argent, même s'ils pillaient des villages, ça ne changeait rien. Ils ne pouvaient pas être jugés puisque c'était eux qui jugeaient les gens. Et puis après, il y a une autre phrase qu'on dit souvent, c'est « quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de droit ». Là, on peut parler du droit judiciaire. Quand des personnes qui ne gagnent même pas assez pour vivre, pour manger, comment peuvent-ils obtenir un avocat ou même acheter un avocat quand ils n'ont pas d'argent ou même quand ils ne connaissent pas? Et s'ils ne prennent pas d'avocat, comment peuvent-ils signer des papiers s'ils ne savent pas lire? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc est-ce que la justice s'applique vraiment pour tout le monde? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Et puis, il y a une autre question aussi, c'est les lois. Aujourd'hui, on est le 11 décembre, donc on fête le jour de notre indépendance. Cette indépendance, on l'a depuis 58 ans. Et 58 ans avant, cette justice, c'était celle qui était sous la colonisation française. Et aujourd'hui, quand on regarde la Constitution, on voit que c'est à peu près les mêmes lois qu'en France. Et on n'a pas adapté notre justice à notre pays. On ne l'a pas adapté au Burkinabé. Donc, merci. Merci. Donc, quand on lit la Constitution, on voit un procès. Pour nous, un procès, ça paraît facile, ça paraît simple. Mais en fait, pour faire un procès juste, il faut de l'argent, il faut du temps. Le temps, on en a assez, on en a un peu trop même. Quand on voit que des procès, des délits mineurs, prennent 12 ans à être jugés. Et l'argent, ça, malheureusement, on n'en a pas assez. Et c'est ça le problème. C'est que, justement, quand il n'y a pas assez d'argent, eh ben, il y a de la corruption. On voit des magistrats qui sont payés moins que d'autres qui sont jugés. Donc évidemment, ceux qui sont jugés payent les magistrats qui sont payés moins qu'eux. Et là, c'est là où la corruption devient facile. C'est là où elle devient un danger. Et là, il y a des réformes qui sont faites. Oui, peut-être qu'il y en a certaines qui vont aboutir à une justice. Une justice intègre, une justice indépendante, une justice à l'image de notre pays. Mais il faut les faire. Et ça, il ne suffit pas de dire qu'on va les faire, mais il faut les appliquer, il faut que les Burkinabés voient le changement. Parce que quand on sort dans la rue et qu'on vous demande, par exemple, si je vous demande ici, qui ferait confiance à la justice de son pays? Qui me répond oui? Personne. Il y a une fissure, il y a une séparation entre le peuple burkinabé et la justice burkinabé. Et il faut la rétablir. Et là, le changement, il faut qu'il commence maintenant. Merci.
Jeanne Salambéré, 15 ans. Subitement, il y a une honte qui s'est emparée de moi. Génération consciente, militant, depuis l'âge de 17 ans et tout ça. Mais moi, à 15 ans, jamais je n'aurais pu m'exprimer comme ça. Applaudissez-la encore une fois. Tout comme jamais je n'aurais pu m'exprimer devant un public comme l'a fait Rasmata tout à l'heure, à l'âge de 17 ans. Applaudissez-les également. On va maintenant demander à trois personnes de donner leur avis sur la prestation.
Elle a parlé de l'indépendance. Selon moi, on n'est pas indépendant. Parce que les hommes indépendants vivent burkinabé, vivent selon les lois de leur pays. Mais ici, je constate que tout ce que l'on fait, c'est asiatique et non burkinabé. Tout ce qu'on consomme, c'est asiatique et non burkinabé. Tout homme a le droit essentiel de vivre selon sa coutume. Mais pourquoi nous nous estimons à vivre comme les autres?
C'est toute la théorie qu'elle a développée.
Oui,
hein,
c'est ça.
En parlant de justice. Hein.
Oui,
la justice. Parce que là, je sais que tu es à Thomas Sankara.
Oui.
Et on sent que tu es une sankariste.
Oui.
Et on sent que tu as envie de dire ce que tu as envie de dire.
C'est ça.
Mais avant tout, tu dois donner ton avis sur sa prestation, c'était ça?
Oui, c'est ce que je fais. Donc, je défends sa thèse.
D'accord.
Oui.
Merci beaucoup et merci pour le propos.
Okay, bonsoir, cher public. D'abord, je vais apprécier Jeanne qui vient de faire une belle prestation parce que d'abord, elle a fait une analyse profonde de ce sujet. Elle rejoint un peu Thomas Hobbes qui dit pour le bon fonctionnement d'une nation, il faut la séparation des pouvoirs. Parce que si les pouvoirs sont séparés, là, bon, il y aura un bon fonctionnement dans l'État. Et puis, elle a parlé des réalités aussi du Burkina Faso. Il faut aussi adapter nos lois selon nos réalités. Pour ne pas qu'on copie toujours l'Occident. Donc, vraiment, chapeau à elle.
Merci beaucoup.
OK, bonsoir, cher public. Moi, d'abord, j'apprécie la pertinence du sujet. Vu que nous sommes là dans le procès du putsch manqué, moi, je me demande pourquoi l'insurrection que nous avons faite, il y a eu des morts. Pourquoi le procès du putsch manqué commence avant ces nombreuses personnes qui sont mortes avant le putsch manqué? Je vous remercie.
Troisième candidat du lycée technique Amilcar Cabral, j'appelle Kenani Bado. Le thème que tu as choisi, peut-on éduquer des enfants?
Le accident de droit face à leurs parents.
Nous t'écoutons.
Ok. Peut-on bien éduquer les enfants à leur accident de droit face à leurs parents? Tel est le thème du LTAC ce soir. Tout d'abord, je voudrais définir certaines expressions dans le thème. Accéder des droits à un enfant face à ses parents. Cette expression signifie protéger l'enfant de ses parents. C'est-à-dire aider l'enfant à avoir ses droits vitaux, ses besoins vitaux. OK. Nous voyons dans notre société africaine que la fille est parfois déscolarisée. Elle est déscolarisée et parfois sa déscolarisation l'amène dans des familles où elle peut être maltraitée. Nous prenons l'exemple chez les Peuls où une fille de 12 ans peut être donnée en mariage à un vieux qui pourrait être son grand-père, un vieux croulant. Et évidemment, cette fille sera obligée de quitter l'école. Pourtant, cette fille pouvait être une leader en Afrique. Donc, cette fille, évidemment, va saisir le droit à l'éducation pour attaquer ses parents en justice et avoir et bénéficier de ses droits. Parce que si vous n'avez pas eu ses droits, certaines filles ici seront mariées. Ça, c'est sûr. OK, l'enfant aussi a le droit, depuis sa naissance, dans le ventre de sa mère, il a des droits. Parce que si ta mère essayait d'avorter, on va l'enfermer. Ça, c'est clair. Ou bien vous êtes pour l'avortement des enfants. Ah, OK. Donc, je voudrais demander d'applaudir pour ceux qui luttent pour contre l'avortement des enfants. OK. Vous savez tous, bien que moi, qu'une personne qui veut devenir grande, tout cela va dépendre de son enfance. Et évidemment, si tu as une enfance vraiment choquée, tu ne pourras jamais être grand. Et l'enfant, évidemment, va saisir le droit pour dire à ses parents qu'il a besoin d'être éduqué, d'être formé. Nous prenons l'exemple de Nelson Mandela, notre grand Nelson Mandela, qui depuis son enfance a cultivé l'idéologie de défendre, de libérer son Afrique du Sud. Et il a réussi car il était déterminé. Donc, chers camarades, selon moi, l'enfant a des droits face à ses parents. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Kenani, assieds-toi.
Kenani, il s'est bien exprimé, mais on sentait qu'il avait le trac. Il était envahi par le trac. C'est bien vrai que c'est pas facile de s'exprimer devant des gens, mais bon, ça va.
J'ai senti qu'il était un peu stressé. Sinon, tout allait bien.
Moi, j'aimerais bien connaître quand même votre sentiment, ce qu'il a développé. Quand même, il a avancé certaines choses. Il a parlé d'avortement, des choses extrêmement lourdes et difficiles. Il vous a demandé d'ailleurs si vous étiez contre l'avortement des enfants. Et j'aimerais entendre votre avis sur cette question-là. Étiez-vous d'accord avec lui ?
L'avortement, c'est une mauvaise pratique. Oui, là, on comprend. Maintenant, moi, je voudrais un peu revenir sur... De façon générale, même sa manière d'exposer le thème, je pense que c'était de façon superficielle. C'est tout ce que je vais dire. Mais quand même, Apollo disait pour lui, c'est déjà une bonne chose. Quand
J'appelle maintenant Wenida, donc Ouédraogo. Et puisque nous sommes dans le cadre de Ciné Droit Libre, tout à l'heure on a parlé de justice, levez-vous, c'est que c'est le thème hein, de cette 14e édition. Et toi tu as choisi un thème qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Toi-même tu sais peut-être pourquoi, c'est la migration. Nous t'écoutons.
Bonsoir chers camarades, bonsoir chers amis, défenseurs des droits de l'homme, bonsoir chers jury. Permettez-moi de prendre la parole en ce soir au nom de mes camarades du lycée technique Charles Lavigerie pour défendre notre position sur le phénomène de la migration. Qu'est-ce que la migration ? La migration est un phénomène qui a de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés.
On remarque que ce sont les jeunes qui préfèrent migrer. Ils veulent aller en Occident, au pays de l'oncle Sam. Pourquoi ? Ils se disent non, il y a le chômage, il n'y a pas de travail. Ou plutôt, à cause de leur échec scolaire. Ou parce qu'il y a un manque de centre de formation dans leur pays d'origine. Certes, ils ont des raisons de migrer. Mais je pense que ce n'est pas pour autant que nous devons encourager la migration. Vous savez bien que la migration, ça a des effets tellement négatifs sur nous et sur ceux qui migrent et les pays. Prenons le cas des conditions de voyage lors des migrations. Mais les conditions sont tellement éprouvantes. Les migrants, ils veulent traverser la côte de la Méditerranée pour aller en Europe. Il n'y en a qui meurent de noyade. D'après l'Organisation internationale des migrants, 15 000 migrants ont été rapatriés dans leur pays parce qu'ils ont essayé de traverser la côte de la Méditerranée au péril de leur vie. Eux, ils ont la chance, on les a rapatriés. Et ceux qui sont morts, il y en a d'autres, c'est tellement misérable. On les a amenés en Libye, détournés à Libye pour être réduits à l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été réduits à néant. C'est pas normal. Tu es là. Tu es esclave de quelqu'un. Comment... Tu es là, tu es esclave de quelqu'un. Pendant que tes parents sont au pays, ils n'ont pas de tes nouvelles. Ils pensent que tu es mort. Tu ne peux même pas les envoyer de tes nouvelles parce que tu es traité comme un animal alors que tu es un être humain. Pourquoi ? Parce que tu voulais migrer, aller en Occident. Pour cette raison-là, il ne faut pas être pour la migration. Prenons sur le plan de la fuite des cerveaux. Ceux qui vont en Occident là, ce sont les cerveaux, ils auraient pu rester au pays, développer le pays. Mais non, ils partent pour développer un autre pays. Ils auraient pu rester créer de petites entreprises. C'est vrai, c'est pas facile au début. Mais si tu as de la persévérance, tu vas réussir. Tu crées ton entreprise. Ça se développe et tu te développes. Ça fait ton nom, ça fait le nom de ton pays. Il y a un autre plan. Pour ceux qui migrent illégalement et ceux qui migrent légalement aussi. Arriver dans ton pays, au pays d'accueil, tu sais comment tu vas vivre. Les conditions de vie là-bas, c'est même pas la peine. Quand tu arrives, il y en a qui sont emprisonnés dès leur arrivée parce qu'ils n'ont pas leurs papiers. Est-ce que ça, c'est normal? Tu vas quitter ton pays pour aller souffrir ailleurs. Ça, c'est même pas normal. Ou bien, il y en a, ils sont arrivés, ils n'ont même pas un toit pour dormir. Vous savez ce qu'ils font? Ils s'adonnent à la prostitution. Nos soeurs qui sont là-bas, il y en a qui s'adonnent à la prostitution. Même des garçons qui s'adonnent à la prostitution. Pourquoi? Pour pouvoir manger. Tu quittes ton pays là où tu mangeais bien. Pour partir quelque part, donc tu ne peux même pas avoir un revenu pour manger. Ils sont exposés au chômage. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Il y en a qui deviennent des drogués. Il y en a qui deviennent des voleurs. Tu espérais partir avoir un avenir meilleur, mais te voilà réduit à ça. Tu n'as même pas le courage d'envoyer de tes nouvelles à tes parents. C'est pas quelque chose d'acceptable, même. De nos jours, on entend parler de sensibilisation comme solution. Moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement accepte et crée peut-être des centres de formation pour les jeunes. L'enseignement de nos jours, c'est un enseignement généralisé. Il n'y a pas autant d'enseignement technique. S'il y avait des centres de formation, un élève qui finit son circuit scolaire, il saurait de quoi faire de ses 10 doigts. Ils sont là, c'est le concours de la fonction publique. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il faut créer des centres de formation. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Pourquoi ces jeunes, ils partent? Il y en a qui partent pour étudier. Ils se disent, je vais aller dans une université. L'université d'Oxford au Canada, ça c'est quoi? Il faut créer des universités comme ça aussi dans les pays de départ. Si le gouvernement s'engage à créer une université comme ça dans les pays où les jeunes veulent partir, mais ils vont rester. Il n'y aura plus de raison pour partir. Tu es là, tu étudies bien. Tu vas développer ton pays, je vous le promets. Si le gouvernement s'engage à faire cela, aucun jeune ne va décider de migrer. Nous allons rester ici, développer notre pays, nous développer et nous bâtir. Tout ça, je vous remercie.
Merci beaucoup. Weniga, assieds-toi. Alors, la Vigérie, on se calme ou pas, là? Pensez-vous, c'est vrai que vous êtes venus en nombre, mais les membres du jury, on a parlé tout à l'heure de corruption et autres, sont incorruptibles, regardez-les. Vous avez beau crier, vous lever, quoi que ce soit, ils décideront en leur âme et conscience.
Ok, alors, ce que tu as dit, franchement, c'était magnifique. Tu as dit des choses vraiment réelles, c'est des faits. En fait, comme tu dis, vu que les universités qui sont en Occident, il n'y a pas ça ici. Donc, les gens, en fait, il y en a qui surtout, en fait, veulent aller en France, tout ça, là, pour revenir avec des connaissances acquises, pour même, en fait, faire évoluer son pays. Parce que, en fait, j'ai pas les mêmes possibilités en Afrique que je pourrais avoir, je sais pas où. Bah, je vais aller autre part pour faire mes études. Mais moi, je vais revenir ici. Je vais revenir en Afrique pour ensuite faire évoluer ça. J'ai pas envie de retourner faire évoluer un autre pays. Donc après, faut aussi faire la part des choses. En fait, c'est toujours la connaissance dont on a besoin. C'est comme, il parlait de l'enfant, de la fille, là, qui va pas aller à l'école et qui, en fait, elle a pas de connaissances pour pouvoir se rebeller contre ses parents. C'est pour ça, en fait, on va chercher des connaissances pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, pour pouvoir revenir et refaire son pays, en fait.
Alors, je vais te dire à toi, comme j'ai dit à Thomas Sankara tout à l'heure, merci, bravo pour l'exposé. As-tu apprécié sa prestation? Donc, l'as-tu trouvée éloquente?
Tout à fait.
Applaudissez-la, alors, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et tu as raison. Tu as raison de dire que il y a plusieurs raisons qui expliquent la migration de certains. Alors, on parle évidemment de cette migration clandestine, mais il y a aussi évidemment certains qui souhaitent partir pour revenir, ou ceux qui partent pour espérer trouver un travail et envoyer de l'argent à leur famille qui se trouvent au pays dans des situations extrêmement difficiles économiquement parlant. Mais c'est bien, en tout cas, d'avoir dit qu'il ne faut pas encourager la migration, mais elle peut en tout cas s'expliquer et se comprendre.
On ne peut pas passer tout le temps à montrer que non, l'Europe, c'est l'Eldorado, dire que l'Afrique, bon, c'est une Afrique des guerres, de la misère et tout, 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 et puis s'inquiéter ou bien être étonné parce que les gens partent.
Tu pourras ajouter de la dictature, de la corruption,
voilà.
Et des
hommes politiques qui sont là, qui ne veulent pas partir. Ouais. Il finit son mandat, il fait prolongation comme un match de football. Voilà. Dans tout ça, on manipule la Constitution afin de revenir. C'est pas possible. On est là, c'est même l'argent du pays, d'ailleurs, ça part là-bas. Nous aussi, on va aller là-bas, retrouver ça là-bas. Entreprises, les multinationales françaises ou occidentales qui sont là, piller nos recherches, amener là-bas. Bon, nous aussi, on va aller les retrouver là-bas. C'est pour nous. Donc, il faudra une décolonisation totale. Puisque la conscience même est colonisée d'abord.
Ouais.
Donc, il faut d'abord une indépendance véritable. Bon, je vous remercie.
OK. Je voudrais juste te dire, tant que l'on persistera à dire que c'est toujours la faute de l'autre et que l'on ne verra pas nos propres erreurs, nos propres comportements, mauvaise mentalité, mal gouvernance, nos responsables locaux de tant de gabegie, de tant de misère, de tant de colère, de tant de frustration, tant que nous accuserons l'autre, nous nous tromperons d'ennemis, parce que les responsabilités sont partagées, ne l'oubliez jamais. Et comme le disait Awadhi dans un de ses titres, Positive Black Soul, souvent, le bourreau est noir, ce qui veut dire que le bourreau est en Afrique, le bourreau est parfois l'Africain lui-même envers sa propre population. N'oubliez jamais ça.
Je prends la parole pour dire que ce qu'elle a dit, c'est très pertinent. Je ne la défends pas parce qu'elle est de mon établissement. Ce qu'elle a dit, c'est un point sensible. C'est un sujet qui fait tabou présentement. Si on regarde sur les chaînes internationales, on voit que c'est vrai. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité, c'est une véracité. Tu regardes à la télé, tu vois les gens qui se noient, mais qui forcent pour partir. Pourquoi? Si l'État avait mis les choses en place ici, là, on n'aurait pas besoin de migrer là-bas pour aller. Tout ce que les Occidentaux ont, on peut avoir ça ici.
Bien sûr.
On n'a pas besoin de se forcer, de donner des moyens, de se noyer, de se donner la mort. Et puis, il y a des présidents qui se permettent de construire des barrières pour qu'on n'arrive pas là-bas. Si le président du Burkina Faso, si les membres du gouvernement décident de prendre leurs fonctions et que la population aussi se décide à sortir tout ce qu'elle a dit en tant qu'élève, en tant qu'une fille, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. On pourra développer notre pays, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Le Burkina Faso, c'est un pays des hommes intègres, donc on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Si l'État n'a pas les fonds, s'il refuse de donner les fonds à la population et qu'il s'en piffe les poches, ils sont là à grossir, à des grosses caisses, à rouler des grosses caisses. Comment on va développer le pays? C'est eux qui ont les bars. Nous, on n'a pas l'argent.
Bravo. Allez, applaudissez, recevons Moussa Sidibé. Toi qui es en terminale D, c'est ça?
Oui, oui.
Et tu as 20 ans?
Oui, oui, j'ai 20 ans.
L'éducation familiale et scolaire actuelle du Burkina peut-elle conduire au développement?
Ok, nous, on nous a donné le thème, l'éducation familiale et nationale et scolaire du Burkina Faso actuelle peut-elle conduire au développement? Et maintenant, on dit non. L'éducation familiale et scolaire du Burkina Faso ne peut pas conduire au développement pour plusieurs raisons, mais nous, on en a choisi trois. D'abord, on a la démission des acteurs du système éducatif. Et cela s'explique par, d'une partie, dans un premier temps, on a les parents qui laissent l'éducation de leurs enfants à la merci de la télévision et des bonnes, c'est-à-dire les filles de ménage. Voilà. Et puis, deuxième exemple, le gouvernement ne prend pas des mesures sérieuses pour faire avancer cette éducation. Exemple, si on fait et vous ne faites rien, on va continuer de faire. Voilà, elle a dit ça, donc ça rentre dans ce système. Deuxièmement, on a la qualité même de l'éducation burkinabé. Elle est mauvaise. Le Burkina Faso ne forme pas des gens employables directement. Exemple, on a des gens qui sortent, soit qui partent dans la fonction publique, comme l'a dit mademoiselle, au lieu de travailler pour eux-mêmes. Parce qu'on dit développement, soit tu emploies, soit on t'emploie. Si tu sors de l'éducation, de l'enseignement, de ton cursus scolaire, et tu n'es pas capable de démontrer par des preuves que tu es employable, donc tu restes un danger pour la société. Donc tu entraves le développement même au contraire. Voilà, troisième point, on a parlé de la mauvaise procédure de recrutement même des acteurs de l'éducation, plus précisément les enseignants. Aujourd'hui, le fait que le gouvernement ne soit pas capable de construire des infrastructures nécessaires pour accueillir les élèves, on a entre griffes privatisation des écoles. Ce qui fait qu'on recrute les enseignants non pas pour leur qualité, non parce que pour se faire du profit. Par exemple, si un enseignant vient, il a 5 ans de qualification dans le système et puis l'autre, il a 3 ans. Mais celui qui a 3 ans propose 3 000 francs l'heure alors que l'autre propose 5 000 francs l'heure. On va prendre celui qui a proposé 3 000 francs l'heure et on laisse l'autre. C'est que le fait qu'ils ne construisent pas des infrastructures aussi, ça fait que dans les établissements publics du Burkina Faso aujourd'hui, on a une surcharge des classes. Je peux dire qu'au Burkina Faso ici, les établissements qu'on peut compter, publics, qui ont moins de 90 élèves en classe de 6e, je peux dire qu'on peut les compter. Tout va de 95 au-delà de ça. Voilà. Et puis, pour ajouter à cet effet, on a dit que chacun a son engagement dans l'éducation. Chacun doit faire sa part de responsabilité. Mais moi, je pense que les responsabilités viennent plutôt de l'État et des parents d'élèves. C'est eux qui sont chargés même de guider l'éducation nationale pour que l'enfant puisse suivre le chemin nécessaire. Et je termine par cette citation de Thomas Sankara qui disait à l'appel de Gawa, c'est en faisant un mal sur notre mauvaise comportement et les pratiques de nos irresponsabilités qu'on réussira à former les hommes de demain, c'est-à-dire la relève du Burkina Faso de demain. Je vous remercie.
Moussa Sidibé.
Nelson Mandela le disait, en matière de débat, on ne perd jamais, on gagne ou on apprend. Considérez que vous êtes tous des vainqueurs. Moussa, vraiment, quelque part, on sent du Sankara dans son discours. Rentrée scolaire, deux points, ouvrons les guillemets. Qui entre, où il entre et quel type d'homme sortira-t-il? Voilà toute la question de l'éducation au Burkina Faso. Il est parti de la cellule familiale à l'État. La cellule familiale qui ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a des parents qui pensent que quand on confie l'enfant à un enseignant, c'est bon débarras. Il y a des gens même qui s'inquiètent quand les vacances s'approchent parce qu'on se dit qu'après les vacances, l'enfant là, il va m'embêter, je ne sais pas quoi faire. Ne confondons pas élevage et éducation. À la page 16 de Éduquer ou périr de Geoff Kizerbo, je cite, l'éducation est le logiciel central de l'ordinateur qui programme l'avenir des sociétés. Méditons-en.
L'État burkinabé ressemble au père de famille qui a tourné le dos à ses enfants. Aujourd'hui, l'éducation est privatisée. Et j'ai un ami à Kourou, la troisième ville de notre pays. Il est allé pour faire la vacation dans un lycée. On lui propose 1 heure à 500 francs. Est-ce qu'un promoteur d'établissement privé qui est soucieux de l'avenir des élèves qui sont assis sur les bancs va proposer 500 francs à son professeur? Et puis, quand ce dernier va s'arrêter devant les enfants, il aura quelle image? Peut-être c'est pour porter des tapettes trouées, aller devant les élèves. Ils ne vont pas te respecter. Donc, il a soulevé des problèmes très sérieux. Et l'État burkinabé n'est pas sérieux à ce niveau. Et moi, alors là, si j'ai gagné une bourse pour aller étudier à l'étranger, je ne vais même pas hésiter à la saisir. Je ne vais pas hésiter. Si moi, aujourd'hui, la Sorbonne me fait signe. Moi, par exemple, je vais étudier sur le post-colonialisme. Mais quand vous prenez l'université, la bibliothèque, c'est une bibliothèque digne du Moyen-Âge européen. C'est difficile. Donc, je vous remercie.
L'époque où le colonialisme, en tout cas, n'existait pas. Donc, trouver les bons ouvrages, c'est compliqué. Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Il vient d'évoquer toute la problématique des générations sacrifiées. Hein. Et des générations sacrifiées, il y en a dans toute l'Afrique. Ce que vous dénoncez ici au Burkina est dénoncé ailleurs dans bien d'autres pays. Je voudrais juste rappeler qu'au Congo-Brazza, au moment où nous parlons, les difficultés de l'unique université du pays, Mariam Gwabi, eh bien, se poursuivent. L'université était arrêtée, avec des professeurs en grève, avec des étudiants qui ne pouvaient plus étudier. Et c'est extrêmement difficile. Vous vous rendez compte, un pays aussi grand que le Congo, une seule université et qui ne fonctionne plus, encore une année blanche, encore des générations sacrifiées.
Je voulais revenir sur ce que Sidibé a dit, mon camarade. La responsabilité des acteurs de l'éducation nationale. On voit aujourd'hui la multiplication hasardeuse des établissements. Ce n'est pas du tout normal qu'ils ne remplissent pas les cahiers de charges. Ce n'est pas du tout bien. Les acteurs de l'éducation ne font pas du tout leur travail. Et aujourd'hui, l'école est devenue plus une recherche de profit que d'être la base de l'éducation. Si nous n'instruisons pas de bons élèves, qui va diriger notre pays demain? Ce sera la corruption, rien de bon. Et moi, je préfère qu'on forme des leaders de maintenant pour demain.
A-t-il offert au public, aux auditeurs de RFI, une belle prestation, notre Moussa Sidibé?
Sa prestation était plus que belle.
Merci beaucoup, merci pour lui.
On m'a dit que la vie appartient à celui qui se lève tôt, alors je ne dors jamais. J'ai appris que ton meilleur ami peut être ton pire ennemi, je me méfie désormais. Ils ont tenté de me faire mourir, moi j'ai tout vu dans mes conneries. Ils ont mis mon nom dans les canaries, mais les jaloux auront des panaries. Toute la night, moi je bosse, moi je ne dors pas, je veux finir boss. Comme je m'entraîne au combat, je m'enchaîne au lien du succès. Je me condamne, le rap qui est même moi, j'impose les affaires ton mal. Je suis le yin, je suis le yang, pas de chute dans ma team, non mais je ne fais jamais confiance. Avec les infos, je garde mes distances. Pour la tranquillité de ma conscience.
Toujours avancer, toujours avancer, jamais reculer, sauf pour mieux sauter.
Du jury, comment avez-vous trouvé les 5 candidats? Pas et de résultat, hein, pour l'instant.
Le niveau, oui.
Ouais.
Et je pense que le niveau, entre nous trois, le niveau est acceptable, vu que chacun a essayé quand même de se débattre comme il peut pour donner le meilleur de lui-même. Donc je vais demander au chaleureux public de les applaudir. Vous les applaudissez encore. Pour, avant qu'on donne les résultats, je me dis quand même qu'on a quand même essayé de travailler sur 3 points. Sur la prestance qui est notée sur 10, la pertinence qui est notée sur 10 et l'éloquence qui est notée aussi sur 10. Et tout à l'heure, vous aurez les résultats, cher public chaleureux.
Nous allons accueillir un slameur, Majesté la Parole. Et avec lui, nous allons adresser une lettre au ministre de la fonction publique, car le chômage des jeunes au Burkina Faso et un petit peu partout sur le continent est une réalité.
une politique meurtrière pour certains face à toutes ces générations sacrifiées. Je vous demande d'accueillir tout de suite, s'il vous plaît, Majesté, la parole.
Monsieur le ministre, j'ai l'horreur de solliciter de votre haute vigilance l'attention à mon inscription, une fois de plus, sur la liste des candidats au concours direct du recrutement de la fonction publique. Car comme vous, monsieur le ministre, je rêve moi aussi de servir la République. Si joint à ma demande, non à ma doléance, un extrait de mon acte de naissance, une photocopie légalisée de mes diplômes primaires, secondaires et supérieurs, une photocopie légalisée de mon attestation de reconnaissance de chômeur, une photo d'identité récente et 5 photos d'identité des années précédentes. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma colère la plus téméraire. Mais si je vous écris ainsi, c'est parce qu'à mes portes, il n'y a plus d'issue. Issue d'une famille appartenant à la classe des moyens nantis, j'ai été envoyé à l'école pour espérer un jour revenir prendre soin de tonton et tanti. Arrivé à l'école, le maître m'a dit, mon petit, l'éducation, c'est la clé du succès, c'est sûr. Alors j'ai bossé, bossé dur. Aujourd'hui, j'ai obtenu la clé. Mais apparemment, le gouvernement a changé les serrures. Mais vous voyez, après tant d'années passées sur les bancs, mon avenir est encore douté. Triste de constater que je passe la moitié de mes journées à préparer du thé. Mais Claudie, on me dit l'admission au concours, c'est une question de chance. Mais nous, qu'avons-nous fait pour côtoyer chaque année la malchance? Akililu me dit non, c'est une question d'intelligence. Pourtant, j'en connais qui ont bossé les psychotechniques jusqu'à faillir devenir psychopathe. Mais hi, Kilaï qui est là, lui me dit non, c'est une question d'expérience. Pourtant, Koro Gaussou, ça fait 12 ans qu'il compose, mais ça ne va pas. Non, il a compris. Il a laissé le stylo pour enfin prendre la daba. Alors, monsieur le ministre, si vous trouvez que mes vers sont sévères, c'est parce que je les ai écrits dans la misère. Et si vous trouvez que mes mots manquent de sagesse, c'est parce qu'ils proviennent d'un cœur en détresse. Merci.
Majesté, la parole. Bravo.
Merci,
merci beaucoup.
Merci, ça fait plaisir. Ouais.
L'album sort bientôt, en janvier?
Oui, l'album, mon tout premier album, 100% slam, 8 titres, c'est le 18 janvier, du côté de l'Institut Goethe, Institut allemand. L'album va s'intituler Djanto. Djanto, c'est en langue nationale djoula,
ouais,
qui veut dire prêter attention. En fait, l'album, c'est pour rendre hommage à ma maman, qui au départ ne voulait pas que je fasse la musique, qui voulait que je continue les études, devenir un grand fonctionnaire. Mais bon, la passion a pris le dessus sur...
Et puis, il n'y a plus de place. Les fonctionnaires, c'est terminé. Il n'y a plus de place. Et est-ce que maintenant, maman et la famille en général, oui, acceptent ton choix?
Bien sûr. En fait, ceux qui me connaissent, je portais des dreadlocks que j'ai enlevé il n'y a pas si longtemps.
Pourquoi?
Parce que ma maman, elle a dit que, bon, enfin, j'accepte que tu fasses la musique, mais si vraiment tu fais cet album pour me rendre hommage, il faut d'abord enlever tes cheveux, même si après tu vas les remettre. Donc j'ai fait ça pour son plaisir, quoi.
Bravo, hey, respect. On parlait d'éducation, merci, tout à l'heure. Merci beaucoup.
Merci
Majesté, bien. La parole, je vous demande de l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Alors, Kenani, comment te sens-tu après ta prestation?
Bon, je suis confiant, en fait.
T'es confiant?
Ouais, ouais.
Tu penses que c'est toi qui vas gagner?
Ouais.
Oui? Ok. Benida?
J'ai pu faire passer le message, c'est ça l'important.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Et j'espère gagner.
Et tu espères gagner, évidemment.
Évidemment que.
Moussa, es-tu confiant?
Oh, ok, moi je crois que l'important, c'était de participer à l'ouverture de quelque chose qui pourra profiter à chacun de nous, quoi. Que ça ne soit pas vain, que ça ne soit pas la première et la dernière fois, comme on l'a dit.
Exactement. Merci beaucoup. Merci, merci. Jeanne, durant les différentes prestations, Moussa te parlait. Il a tenté de te déstabiliser, toi aussi.
Je sais pas. Je dénonce pas. Solidarité.
Mais tu n'es pas du même lycée.
C'est pas grave. On est du même pays.
Jeanne, es-tu confiante?
Je pense qu'on a tous fait de belles présentations et donc voilà, au moins on a appris, il y avait des sujets vraiment intéressants, donc c'est bien.
Ça va ce matin? Ça va, ça s'est bien passé quand même.
Oui, ça s'est bien passé, au moins j'ai appris beaucoup de choses par mes camarades et consorts, donc...
Donc voilà.
Excusez-moi.
C'est génial parce que désormais, même s'ils ne se connaissaient pas, ils forment un groupe, ils forment une famille, ils forment un pays. Applaudissez-les, s'il vous plaît. C'est très bien. C'est très bien dit. Alors, membre du jury, qui tient la 5e place de ce premier concours d'art oratoire?
Ok, merci Claudicia de nous avoir donné la parole. C'est juste dire tout simplement que les 5 sont des candidats qui se valent. Ici, nous, on n'a pas de dernier ni de dernière.
C'est clair.
Mais c'est juste les encourager et nous les félicitons. La 5e ou le 5e, le lycée Franklin Roosevelt à Rasmata Ouedraogo.
Rasmata Ouedraogo.
4e, lycée Amical Cabral Kenani Bado.
Kenani
Bado.
Bravo Kenani.
Lycée Saint-Tex qui est Salambéré Jeanne. Donc on part au 2e. J'ai nommé encore un lycée de notre héros national. Le lycée Thomas Sankara.
Attendez, j'explique à nos auditeurs. Ce n'est pas du tout pour Moussa Sidibé, qui est donc deuxième de ce concours, que le public s'est mis à crier, à hurler, à casser le fauteuil du Sénaza. C'est tout simplement parce que tous les élèves qui sont ici, donc de Charles, Lavie, Géry, sont dit, ah ben, là le calcul est vite fait, c'est nous. Mais, attendez. Parce qu'il y a eu un problème dans les décomptes. Il y a eu un problème en termes de temps. Allez, membre du jury, nous vous écoutons.
Ok, et comme petit défaut, elle est allée au-delà du temps qu'on les a imparti. Mais cela l'a pas empêché d'avoir la première place, qui est Ouedraogo Wendy Roxane du lycée technique Charles Lafigéry.
Bravo.
Bravo à elle.
Voilà. On va demander à tout le monde de revenir. Rasmata, Jeanne, Monsieur Moussa, celle qui a remporté le concours, première édition, Peggy, Roxane, Mademoiselle Ouedraogo et Kenani. Applaudissez-les encore très, 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 très fort. Merci beaucoup pour ces couleurs tropicales. Couleurs tropicales est toujours en direct du Burkina Faso. On a passé une semaine exceptionnelle, vraiment, au cœur de Ciné Droit Libre. Ce festival-là est un festival majeur parce qu'aujourd'hui, c'est un festival qui est présent un petit peu partout sur le continent africain. C'est un festival qui a une réputation, excellente réputation, parce qu'il est consacré aux droits humains et à la liberté d'expression. Sa réputation va bien au-delà de l'Afrique. Vous pouvez être fiers, car sans vous, nous ne serions pas aujourd'hui à la 14e édition. Applaudissez-vous, merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup la famille. Toi-même tu C'est comme ça que je vous aime.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.